Amen. Gloire à Dieu. Merci pour ces chants qui nous amènent déjà à comprendre un peu qui est Jésus, à pouvoir réaliser l'œuvre qu'il a faite sur terre et pour chacun de nous, pour plusieurs d'entre nous, nous le connaissons, nous l'avons rencontré. Mais il est forcé de remarquer que beaucoup ne connaissent pas Jésus. Beaucoup ne savent pas vraiment qui il est. Tout le monde a entendu parler une fois de Jésus dans leur vie, ça c'est sûr. Si on regarde les cours d'histoire, qu'est-ce qu'on dit en général? On dit 500 ans avant Jésus-Christ. Donc on peut dire que tout le monde a entendu d'une certaine manière, au moins pour ceux qui sont allés à l'école, a entendu le nom de Jésus-Christ. Mais connaître une date, connaître un événement peut-être, je crois que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour changer nos vies. Ça ne suffit pas pour comprendre qui il est. On peut remarquer aussi, selon un journal, que seulement 26% des Français ont déjà ouvert une Bible. 26%. Vous imaginez, ce n'est pas beaucoup. Hein. Ça veut dire que 74% des Français n'ont jamais lu une partie de la Bible. Malgré qu'il y ait plusieurs citations de la Bible qu'on cite dans notre langage courant, j'ai l'impression qu'on pense connaître Jésus, mais que dans le constat, ce n'est pas si évident. Que dans la pratique, finalement, on le connaît si peu. Et j'aimerais faire une enquête cet après-midi. Une enquête avec vous. Vous êtes partant? Ouais? Il y en a qui me regardent genre, ouais, on va voir après comment ça tourne, on te suivra peut-être après. J'aimerais faire une enquête sur la vie de Jésus. Qui est Jésus? Et quand on fait une enquête, on commence par quoi? On commence par l'événement, par trouver des témoins oculaires. Alors on va prendre la Bible et on va lire Luc chapitre 1, verset 1er. Luc va être notre enquêteur cet après-midi. Luc chapitre 1, verset 1er. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis pour nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Voilà une lettre de notre enquêteur qui nous dit et qui envoie à son ami Théophile, voilà, je suis allé voir les témoins oculaires, j'ai cherché des témoignages, j'ai cherché ce qui s'est passé et je te l'ai mis par écrit. Alors on est heureux cet après-midi. On a toute sa lettre. Donc on va pouvoir voir quelques passages. On continue au verset 26. Allons voir un peu la naissance de Jésus. Chapitre 1, verset 26, toujours de Luc. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans la ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Quand on fait une enquête un peu sur cette première scène, la première scène où on entend parler de Jésus. Et Jésus n'est même pas né encore. Il n'est même pas conçu. Mais sa mère vit une expérience particulière. Cette femme qui s'appelle Marie, qui était vierge et qui était fiancée à un homme, cette femme qui aime Dieu, reçoit la visite d'un ange. Est-ce que vous aimeriez recevoir la visite d'un ange? Oui, tout dépend pourquoi. Tout dépend pourquoi. Elle reçoit la visite d'un ange. C'est un événement particulier, hein, un événement surprenant. Alors que cette femme est là, qu'elle vit sa vie, il se passe quelque chose. Cet ange vient, il lui annonce une bonne nouvelle. Tu seras enceinte. Quelle bonne nouvelle! Mais tu seras enceinte, mais elle ne comprend pas. Elle se dit, mais pourquoi? Je n'ai pas connu d'homme encore. Comment cela est possible? L'ange lui explique. Il lui dit, cet enfant sera pas un enfant comme les autres. Cet enfant ne sera pas conçu par un homme et une femme. Mais cet enfant sera créé directement par Dieu, en toi. Et ça sera l'envoyé de Dieu pour une bonne nouvelle. L'envoyé de Dieu. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Cette femme qui aimait Dieu, qui suivait Dieu, a reçu, c'est vrai, une grâce particulière. Ce n'est pas elle qui fait grâce, hein. Elle a reçu une grâce particulière de Dieu, c'est de pouvoir porter celui qu'on appellera le Fils de Dieu, ce fameux Jésus. Deux choses spéciales dans ce passage, je trouve, c'est que on découvre qu'il y a un monde spirituel. On découvre que le monde terrestre est pas seulement arrêté à ce qu'on voit au ciel, et pas seulement arrêté à ce qu'on peut voir à l'horizon, aux choses physiques, mais il y a un monde spirituel. Et je crois que c'est bon de le comprendre et de le savoir cet après-midi. Il y a un monde spirituel. Il y a bien sûr le monde humain, mais il y a un monde qui nous surpasse aussi. Ce monde où Dieu et les anges sont dans la présence de Dieu, où il y a aussi les dominations mauvaises. Et si on ne connaît pas ça, on peut se dire, mais à quoi sert la vie? On vit, on grandit et on finit par mourir et tout se finit là. Il n'y a aucun intérêt à vivre si seulement ça s'arrête là. On comprend qu'il y a un monde spirituel. J'aimerais vous dire cet après-midi, ne négligez pas ce fait-là. Je crois que dans une enquête, il y a des faits importants. Et ce fait-là est un fait important. Parce que si on comprend qu'il y a un monde spirituel, ça veut dire qu'il y a quelque chose après la mort. Ça veut dire qu'après la mort, il y a sûrement l'enfer et le paradis, comme c'est dit dans la Bible. Ça veut dire que Dieu existe. Ça veut dire que nous ne sommes pas créés de poissons comme on pouvait en rigoler avec quelques-uns tout à l'heure. On n'a pas été créés de poissons ou de grenouilles, mais on a été créés par Dieu. Tu as été créé par Dieu. Continuons notre enquête. Où va naître Jésus? Dans une étable. On a tous fait la crèche avec le papa, la maman, le bébé dans la petite mangeoire, la vache et l'âne. Il faut mettre la vache et l'âne, on ne sait pas pourquoi, mais il faut les mettre. Et on voit à ce moment-là, dès qu'on est dans les maisons, qu'on regarde la crèche à Noël, voilà, c'est beau, c'est joli, mais c'est beaucoup plus que ça. Beaucoup plus qu'une scène qui paraît tellement surréaliste, une scène qui paraît tellement insignifiante. On va aller dans Luc 2. Luc 2, verset 1er. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle en maillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtel. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce que leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Encore une bonne nouvelle. Encore une scène qui nous donne la joie. Jésus naît. Né dans une crèche. Et là, alors que Jésus vient de naître dans une crèche, Jésus qui a été créé par Dieu dans le ventre de sa mère, Jésus qui est le Fils de Dieu, celui qui doit être sur tous les trônes, qui doit régner. Là, un ange, encore un ange, apparaît aux bergers, les bergers qui sont dans une contrée. Je ne vais pas vous reposer, est-ce que vous voulez voir un ange parce que... Ces bergers sont là et ils voient un ange et l'ange annonce encore une bonne nouvelle. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Quand on avance un peu dans la parole de Dieu, quand on avance dans ces textes, qu'est-ce qu'on se rend compte? Que Jésus n'est pas seulement un enfant comme un autre. Jésus n'est pas seulement un enfant qui était spécial. C'est le Sauveur, le Christ, le Seigneur, celui qui sauve les vies, celui qui transforme les vies, qui change les cœurs totalement, Jésus. Quelle scène encore exceptionnelle. Ce que j'aime bien dans ce passage, et en tant qu'enquêteur, c'est bon de savoir ça, c'est que ces bergers, ils vont aller vérifier ce que l'ange leur a dit. Ces bergers sont allés vers Jésus. On a entendu tout à l'heure et on a chanté, si tu fais un pas vers lui, si tu fais un pas vers lui, alors Jésus viendra avec toi. Et je crois qu'il est bon d'aller voir ce que l'on raconte, d'aller voir ce qu'on annonce. Oui, les bergers ont fait des pas, ils sont allés jusqu'à Jésus pour voir et ils étaient heureux parce que ce qui leur avait été annoncé était exact. Exact. Peut-être tu te dis, mais ce que tu m'annonces, moi ça ne me dit rien. Je ne connais pas Jésus, je ne sais pas qui il est. Je ne sais pas, j'ai jamais lu la Bible, je ne sais pas ce que c'est. Pour moi, ce n'est pas ma conception, c'est quelque chose un peu de surréaliste. Mais sache que si tu vas voir Jésus, si tu t'approches de lui, alors tu verras que tout ce qui est écrit dans ce livre est exact. Que tu as vraiment besoin du salut, que tu as vraiment besoin de rencontrer Dieu. Amen. On va avancer un peu plus vite, un autre moment où on voit encore Jésus à l'adolescence. On ne va pas le lire ensemble, mais en fait, les parents de Jésus vont à Jérusalem et ils se retrouvent tous ensemble pendant une fête. Et alors qu'ils étaient pendant la fête, ils vont perdre Jésus sans s'en apercevoir. Ils vont commencer à partir au bout de quelques temps, ils vont commencer à partir et au bout d'un moment, ils vont se retourner, ils vont voir que Jésus n'est pas là. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Jésus n'est pas avec nous. Alors ils vont aller voir ceux qui sont à côté d'eux, ceux qui voyagent avec eux, ils ne trouvent pas Jésus. Ils se rendent compte qu'ils l'ont laissé. Ils l'ont laissé derrière eux. Alors ils retournent là où il y avait la fête, et alors qu'ils l'ont cherché pendant 3 jours. Vous imaginez chercher votre enfant pendant 3 jours. Il faut le faire quand même. Ça doit être angoissant d'ailleurs. Ils vont le dire qu'ils étaient angoissés. Et ils vont chercher Jésus pendant 3 jours et ils vont finir par le trouver, où ça? Dans le temple. Alors qu'ils vont un peu reprocher à Jésus de ne pas être resté avec eux, alors qu'ils vont dire, mais pendant 3 jours, nous étions dans l'angoisse à te chercher, c'était difficile pour nous. Jésus va dire quoi? Il va dire, mais pourquoi vous me cherchiez? Je dois m'occuper des affaires de mon Père. Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Quelles affaires? Son père est charpentier. Joseph, le charpentier. De quoi il s'occupe dans le temple? De quoi il s'occupe dans cette ville? Pourquoi il est là alors qu'il dit que je veux m'occuper des affaires de mon père? Pourquoi dans le temple? Les parents ne vont pas comprendre. Marie va quand même garder ses paroles sur son cœur. Ils ne vont pas comprendre, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça se passe comme ça? Qui est en fait cet enfant? Qui est Jésus? Peut-être vous vous posez la question, mais je ne comprends pas. Qui est Jésus? Jésus est un homme ou alors c'est Dieu? Est-ce que Jésus est un être humain ou alors c'est un esprit? Jésus, c'est Dieu fait homme sur la terre, qui a payé le prix pour chacun de nous. Ne te pose plus de questions cet après-midi. Tu peux rencontrer Jésus, Jésus le Sauveur, Jésus le Seigneur, celui qui a pour Père Dieu, celui qu'on a appelé Emmanuel, Dieu parmi nous. Veux-tu rencontrer Jésus? Veux-tu comprendre qui il est? On continue un peu plus loin. On va lire dans Luc 3. Luc chapitre 3. Luc 3, verset 21. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. » Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Entre l'adolescence et jusqu'à 30 ans, il n'y a aucun texte qui nous parle de ce que Jésus a fait, des événements qu'il a pu avoir, de ce qui a pu se passer. Mais parce que l'important, c'est pas peut-être son enfance, c'est peut-être pas le fait qu'il ait grandi, même s'il est dit à un moment qu'il grandissait et il croissait en sagesse, en force. Et je crois que ça, c'est pas la priorité. Et l'important, c'est quand Jésus a commencé à faire ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Jésus a fait des miracles. Jésus a guéri des malades. Jésus a délivré des démoniaques. Jésus a rendu la vie à ceux qui étaient morts. Il a ressuscité plusieurs personnes. Est-ce que vous croyez qu'un homme peut faire cela? Quand on fait une enquête, en général, on cherche un peu les choses qui sortent de l'ordinaire. On cherche les choses qui sont, pas les choses qui sont normales, les choses qui sont classiques, voilà, c'est pas ce qu'il a mangé, ce qu'il a pu aller faire, mais c'est plutôt qui il est et pourquoi. Pourquoi cette situation? Parce qu'en fait, notre enquête n'est pas là. Notre enquête arrive à un point important, vous le savez, hein. Le ministère de Jésus. Luc 4, verset 31, je lis pour vous. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça disant « Tais-toi et sors de cet homme ». Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres « Quelle est cette parole ? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et sa renommée se répandait dans tous les lieux d'alentour. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta à l'instant. Elle se leva et les servit. Amen. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui emmenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne le quittât point, mais il leur dit « Il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Amen. Le ministère de Jésus. Jésus va de ville en ville. Il proclame qu'il peut délivrer. Il proclame que le salut s'est approché. Et qu'est-ce qu'il fait? Il guérit les malades. Il relève ceux qui en ont besoin. Il chasse les démons. Je crois que c'est des points à mettre dans notre enquête, hein. Il guérit les malades. Partout où il passait, il faisait du bien. Partout où il passait, il prenait soin de ceux qui étaient là et de ceux qui venaient à lui, à tel point que les foules venaient et voulaient s'approcher de lui. À chaque instant, ils ne voulaient pas le laisser partir. Quand on a un beau cadeau, quand on a quelque chose de bon, quelque chose qui fait du bien, quelque chose qui nous aide à avoir une vie meilleure, on ne le laisse pas partir. On ne veut pas le laisser partir. Et ces hommes et ces femmes voulaient le garder avec eux. Ils voulaient le garder avec eux. C'est une nouvelle extraordinaire qu'on vous partage cet après-midi. Et j'espère que vous n'allez pas sortir de ce lieu en disant « je n'en veux pas ». J'espère que vous allez partir de ce lieu en disant « je ne veux plus lâcher Jésus. Je le veux avec moi toujours. J'ai compris combien il est bon, combien il est glorieux, combien Jésus est la priorité dans ma vie. Je ne veux pas le lâcher. Je veux le garder auprès de moi chaque jour. » Je sais que plusieurs ont Jésus en eux. Ils ont Jésus, ils ne veulent pas le lâcher. Il est bon de ne pas le lâcher. De ne pas dire, ben, Jésus part, je n'ai pas besoin de toi. Moi j'ai ma vie, moi j'ai mon intérêt, j'ai mon travail, j'ai tellement de choses, je n'ai pas besoin de toi, j'ai trop de choses à m'occuper. Je n'ai pas besoin de Jésus dans ma vie. Je sais gérer ma vie tout seul. Je vous en supplie. Soyez comme ces hommes, ces femmes qui ne voulaient pas lâcher Jésus. qui voulaient encore entendre cette bonne nouvelle, qui voulaient encore vivre des choses fortes avec lui. On va lire un miracle dans Luc 5, verset 17. Luc 5, verset 17, c'est un passage que vous connaissez bien pour la plupart. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là aussi, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons encore. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés sont pardonnés. » Amen. Amen. Cet homme est paralytique. Cet homme ne peut pas s'approcher de Jésus tout seul. Cet homme ne peut pas vivre une vie normale. Et ses amis qui sont là vont le prendre et ils vont vouloir à tout prix l'amener à Jésus. Si tu as un ami qui t'a amené aujourd'hui, dis-lui merci. Parce que c'est une grâce de pouvoir entendre ce message. Et il nous a dit quoi ? Il nous a dit que Jésus lui a dit « Tes péchés sont pardonnés ». Jésus pardonne les péchés. Ça va surprendre plusieurs d'ailleurs. Ils vont dire, ils vont penser, mais comment cet homme peut dire tes péchés sont pardonnés? Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Seul Dieu peut dire tes péchés sont pardonnés. Alors Jésus va dire, qu'est-ce qui est le plus facile? Dire tes péchés sont pardonnés? Ou de dire lève-toi et marche? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Et il va dire à cet homme, lève-toi et marche. Et cet homme va se lever, il va être guéri totalement. Je ne sais pas qu'est-ce qui te paralyse. Je ne sais pas quel est ton mal. Je ne sais pas peut-être ce que tu as dans le cœur qui pourrait t'empêcher d'approcher de Jésus. Mais sache que Jésus t'aime. Jésus veut te sauver. Et plus que la guérison dans ta situation, plus que changer ta situation, ce qu'il veut, c'est changer ton cœur, que ton âme soit sauvée, que tu puisses rencontrer le Sauveur et Seigneur, que tu puisses sortir de ce lieu en disant, j'ai rencontré Jésus. J'ai rencontré Jésus, il m'a transformé. J'ai rencontré Jésus, je suis sauvé. J'ai la certitude que je suis sauvé. Pour finir, nous retrouvons Jésus dans Luc 23. Je vous invite à lire tout ce livre de Luc, toute cette enquête, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements, des choses fabuleuses à découvrir, et je vous invite à le lire vraiment. Normalement, on ne dit pas la fin de ce qui se passe, mais c'est une histoire vraie, donc je peux dire la fin. Je peux dire la fin. Luc 23, à partir du verset 32. On retrouve Jésus quelques années plus tard. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant de lui et présenta du vinaigre. Il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » Jésus est sur la croix. Jésus sur la croix. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Jésus attaché, cloué sur une croix en bois. Lui qui a fait pourtant tellement de bien. Lui qui a guéri les malades. On se retrouve devant cette situation où le peuple est en train de le regarder, où les magistrats sont en train de se moquer de lui, où plusieurs sont en train de le railler et de se moquer de lui comme ça. Jésus sur la croix en train de souffrir. Je crois que c'est le moment le plus important. lui qui a souffert la mort. Avant ça, et vous pourrez le lire, il a été battu. On lui a craché au visage. On l'a insulté de tous les noms. On lui a mis une couronne d'épines et on lui a enfoncé sur le crâne. Lui qui a été frappé, humilié. On le retrouve là, sur la croix, avec cette inscription au-dessus de lui. Celui-ci est le roi des Juifs. Celui-ci est le roi des Juifs. Les hommes l'ont considéré comme un simple roi, comme un simple homme qui a fait des choses exceptionnelles peut-être. Il est encore plus que le roi des Juifs. Il est le roi de gloire, le roi de toute humanité. Alors qu'il était sur cette croix et que tout le monde se disait « Mais je ne comprends pas. » Vous imaginez Marie. L'ange lui avait dit quoi? On l'a vu au début. C'est important dans une enquête de relever les indices. Hein, il avait dit quoi au début? Il règnera. Il sera sur le trône de David. Il viendra sauver les nations. Mais alors pourquoi il est sur le bois? Pourquoi il est là cloué en train de mourir? Lui qui est l'élu de Dieu? L'envoyé de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? On continue la lecture, verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous !» Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà environ la sixième heure. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte « Père, je remets mon esprit entre tes mains » et en disant ces paroles, il expira. Jésus mort sur la croix. Il est bon de regarder ce brigand qui était à côté de lui. Un était en train de l'insulter, mais l'autre a réalisé que Jésus n'est pas mort par ses fautes. Jésus n'est pas mort parce qu'il avait fait une erreur ou parce qu'il avait péché ou parce qu'il avait fait quelque chose de mal. Il n'a fait que le bien. Lui ne mérite pas. Il ne méritait pas. Pourquoi Jésus est venu sur la croix? Il est venu sur la croix pour toi et moi. Parce que les fautifs, c'est nous. Ceux qui n'ont pas voulu de Dieu, c'est qui? C'est nous. Ceux qui n'ont pas voulu de Dieu le Père, ceux qui n'ont pas voulu même de Jésus, c'est nous au début. Il nous est dit dans la Bible que tous nous sommes pécheurs. Parce que nous avons rejeté Dieu. Nous n'avons pas voulu de lui. Alors Jésus est venu par amour pour chacun de nous. Oui, il y a sa naissance. Oui, il y a son adolescence. Oui, il y a le moment où il est adulte et où il commence son ministère en guérissant, en disant la bonne nouvelle à ceux qui sont autour d'eux. Mais le plus important, parce qu'il est dit qu'il sera sur le trône pour l'éternité, et il est mort. Il est mort sur la croix. Et parce qu'il n'avait pas péché, mais parce qu'il est mort pour toi, Dieu l'a ressuscité des morts. Il l'a amené sur le trône pour l'éternité. La parole du départ s'est accomplie. Mais si tu ne réalises pas cela, si tu laisses de côté ces faits réels, si tu laisses de côté tous ces faits importants pour ta vie, alors que tu as vu que cette enquête était importante, qui pouvait te donner la vie éternelle, si tu le laisses de côté, alors pour toi, ça sera qu'une histoire comme une autre. Mais par contre, si tu l'acceptes, si tu crois en Jésus cet après-midi, si tu l'acceptes comme ton sauveur, alors cette histoire vraie, ces faits, changeront ta vie pour l'éternité. On va prier un moment, si vous voulez bien. Réalises-tu que tu as péché? Réalises-tu qu'il a fallu lui payer le prix? Peut-être il est bon aussi de regarder dans son cœur et de dire, mais est-ce que j'ai voulu de Dieu toutes ces années? Est-ce que je l'ai suivi? Est-ce que pour moi c'est une histoire nouvelle ou alors je le connais depuis longtemps? J'aimerais te dire que si tu ne l'as pas rencontré, si tu n'as pas vécu avec Dieu, si tu n'as pas compris que Dieu était ton créateur avant ce moment-là, c'est le moment de prendre cette décision. C'est le moment de l'accepter dans ton cœur. Pour être comme ce brigand et entendre, alors qu'il avait fauté, alors qu'il avait fait du mal, alors que c'était sûrement un homme mauvais. Et s'il était là, ce brigand, ce n'était pas pour rien. Mais parce qu'il va réaliser qui est Jésus et qu'il va dire, mais souviens-toi de moi. Parce qu'il va venir à Jésus. Il va entendre, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. Tu peux entendre que aujourd'hui tu vas être sauvé. Aujourd'hui tu es sauvé si tu viens à Jésus. Alors simplement un appel, si vous voulez accepter Jésus dans votre cœur, il suffit de lever la main, pas devant les hommes, mais devant Dieu, simplement, en levant une main et... Alléluia. Et le Seigneur le voit. Et je vais prier pour vous. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Pendant que je prie, faites cette prière dans votre cœur. Jésus, viens. Viens dans ma vie. Seigneur Jésus, merci pour ce moment que nous avons passé ensemble. Merci pour ta parole encore, qui nous fait du bien, cette bonne nouvelle. Seigneur mon Dieu, tu vois celui qui est affaibli, tu vois celui qui ne t'a pas encore rencontré, Seigneur, et qui est en train de faire cette prière en disant, mais j'aimerais tellement rencontrer Jésus, j'aimerais tellement voir ces choses, mais ça me paraît tellement surréaliste, tellement loin de moi. Seigneur, touche son cœur maintenant. Montre-lui ton amour, parce que tu es vivant, Jésus. Pose ta main, Seigneur mon Dieu. Amen.